Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Jusqu'en 1973, dans l'État du Texas aux États-Unis, tuer l'amant de sa femme était un homicide dit justifiable. En 1950, un cas avait notamment attiré l'attention d'un homme ayant trouvé son épouse au lit avec un autre homme et qu'il avait abattu de sang-froid, raconte le magazine Slate. L'homme fut déclaré non coupable et la loi ne fut abolie par le Sénat qu'en 1973, donc. Pour savoir comment faire pour accomplir ce meurtre ou bien cette vengeance, selon les points de vue, peut-être eût-il fallu écouter la chanson de Jacques Brel qui se pose précisément cette question et suggère tour à tour l'arsenic, même si c'est trop long, le revolver qu'il juge peut-être un peu court, le mépris, mais c'est un péché, dit-il, et il finit par n'en conclure rien du tout.
Comment tuer l'amant de sa femme quand on a été comme moi élevé dans les traditions? Comment tuer l'amant de sa femme quand on a été comme moi élevé dans la religion?
Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, c'est un peu le thème du quatrième épisode de L'amour sonne toujours deux fois. Une histoire aujourd'hui très sérieuse, pathétique mais un peu drôle quand même, qui s'inscrit dans la série d'histoires d'amour et de retrouvailles signée Monica Sabolo.
Être quitté pour quelqu'un d'autre, ça fait mal. Je sais de quoi je parle. J'ai stalké cette personne sur les réseaux à une fréquence déraisonnable, en me demandant ce qu'elle avait de plus que moi. J'ai rêvé secrètement qu'elle disparaisse, avec la sensation, absurde mais tenace, qu'ensuite, tout irait mieux. Quand ça lui est arrivé, Daniel a bien failli supprimer son rival pour de vrai. Un soir d'hiver, dans l'ombre d'un square, à Paris. Mais commençons par le début. Daniel, 16 ans, rencontre Laetitia, 15 ans, par l'intermédiaire du frère de la jeune fille, avec lequel il prend des cours de théâtre. Il tombe aussitôt sous le charme. Elle est adorable, irrésistible. Une parfaite petite bourgeoise, inaccessible.
Elle était déjà l'espèce de trop jolie fille qui plaisait à tout le monde, qui regardait un type et que le mec s'évanouissait. Enfin, c'était insupportable. C'était la coqueluche de tous. C'était la jeune fille bien rangée, mais très rigolote et déconneuse et pleine de peps, très très pétillante. Elle n'était pas pour moi. Moi, j'étais un espèce de voyou à la con. J'avais des mauvaises fréquentations. J'étais pas le super mec bien rangé, quoi, on va dire.
Daniel est issu d'un milieu modeste. Son père est déménageur, sa mère secrétaire. À la fin du mois, ils ne peuvent parfois payer ni le chauffage, ni le loyer. Le jeune homme ne sait pas ce qu'il va faire de sa vie. La plupart de ses copains sont des petits truands ou des types louches. Comment pourrait-il séduire une fille comme Laetitia? Les années passent, Daniel la regarde de loin. Elle ne le voit pas, se met à fréquenter un copain à lui. Il enchaîne les petits boulots, comédien, coursier. Jusqu'au jour où, avec un ami, il sort un album de jazz sur lequel il chante. Le disque est diffusé à la radio, le duo fait l'Olympia. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne connais pas de fille capable de résister à un garçon qui fait de la musique. Laetitia a 23 ans, et cette fois, elle vacille. Lors d'une soirée dans un appartement chic, dans une robe rouge à paillettes dont Daniel se souvient parfaitement, elle tombe dans ses bras.
Il y avait un grand piano à queue. Il restait de cette soirée. Enfin, était parti une cinquantaine de personnes. Et il restait son frère, elle et moi. Et à un moment, on s'est pris dans les bras et on s'est embrassé. Et son frère, qui était mon meilleur ami, ne voulant pas assister à cette scène, s'est installé au piano et a joué un brouhaha, une merde impensable, puisqu'en fait, il n'avait jamais joué au piano de sa vie. Donc, il n'a pas voulu assister à cette scène et s'est improvisé pianiste médiocre.
Daniel et Laetitia tombent follement amoureux. Ils s'installent dans un petit appartement du 12e arrondissement, où ils sont indécemment heureux. Mais Daniel veut être père. C'est même tout ce qu'il espère dans l'existence. Après 3 ans de vie commune, il menace de quitter Laetitia si elle ne lui donne pas un enfant. Une semaine plus tard, elle est enceinte. À la naissance de leur fille, Daniel passe 3 jours dans les bars pour fêter l'événement, entre 2 allers-retours éblouis à la maternité. Laetitia exulte, elle aussi, mais bientôt elle doit reprendre le travail. Elle est alors présentatrice d'une émission de télé sur une grande chaîne nationale, diffusée en direct, tous les matins. Et tous les matins, à 8h, Daniel la regarde, installée sur le canapé familial, en pyjama, leur bébé dans les bras. Il ne manquerait ça pour rien au monde. Il veut la soutenir, il est très investi, très amoureux aussi. Et puis il se rappelle ce jour-là comme si c'était hier. Sa compagne reçoit un écrivain célèbre qu'il considère comme arrogant et absolument inauthentique.
La veille, nous avions préparé son émission et elle m'avait dit « Il est incroyable ce type, il a quand même compris pas mal de choses ». Visiblement, elle avait une sorte d'admiration par rapport à ce que ce type a écrit. Je n'en avais absolument aucune. Et elle le reçoit. Et là, je me rappelle toujours que, en plus, ma fille bougeait beaucoup, donc je la calais. Et là, j'aime pas du tout, mais pas du tout, du tout, le regard de ce type sur ma nana. Mais pas du tout. Regard de chasseur déséquilibré. Mais pire que ça, j'aime pas du tout non plus le regard de ma compagne sur lui. Et il me traverse l'idée qu'il serait peut-être en train de tomber amoureux mutuellement. Et là, je me ressaisis en me disant que c'est pas pensable, que je suis en train de donner le biberon à ma fille de 6 mois, que ma compagne n'est probablement pas tout à fait encore remise de tout ça, que moi non plus d'ailleurs. Mais bref, et je gomme ça de mon esprit en me disant que je viens de me faire un mauvais délire je suis pas quelqu'un de particulièrement jaloux, mais que là j'ai eu une espèce de poussée de jalousie inappropriée à cette séquence.
Quelquefois, il faudrait faire confiance à son intuition. Mais qui pourrait sérieusement croire à cette scène insensée, celle d'un homme qui voit, en direct à la télé, sa propre femme tomber amoureuse d'un autre? Mois plus tard, sur un banc du jardin du Luxembourg, par un froid glacial, Laetitia, enroulée dans un imperméable jaune citron, annonce à Daniel qu'elle le quitte. Rien ne va plus, elle en aime un autre. Décomposée, Daniel demande de qui il s'agit. Elle refuse de répondre. Daniel sanglote toute l'après-midi dans son bureau de l'agence de conseil en communication qu'il vient de créer. Le soir, les yeux rougis, dévoré de jalousie, il ne lâche pas. Il veut savoir qui est cet homme. Laetitia finit par saisir un roman dans la bibliothèque, le dépose dans la main de Daniel. Il regarde la couverture, éclate de rire, balance le livre à travers la pièce, puis fond en larmes. Ce n'est pas possible, pas lui, pas cet auteur prétentieux. Parfois, vous avez la sensation que la vie vous en veut. Mais en réalité, pour qui accepterait-on d'être quitté? Je me demande s'il est plus facile d'être remplacé par quelqu'un qu'on admire, ou même que l'on envie secrètement. Serait-ce moins douloureux? Pas sûr. Laetitia quitte le domicile conjugal, mais sans son enfant, que Daniel refuse de lui confier. Durant quelques mois, elle viendra lui rendre visite le soir ou le week-end, le cœur serré, mais la mine radieuse. La jeune femme vit pleinement son histoire d'amour. Elle est épanouie, comblée. Daniel, lui, perd la boule.
Je deviens complètement fou avec tout ça. Je deviens complètement fou, c'est-à-dire que je ne pouvais pas concevoir, moi, qu'on puisse sacrifier une histoire avec un bébé de 11 mois, donc maintenant, à cette époque, sous prétexte qu'on avait découvert la passion absolue, surtout avec un con. C'est inconcevable. Et je ne pouvais absolument pas comprendre comment on pouvait tomber amoureuse d'un bonhomme qui était autant à l'opposé de ce que je suis. Et donc un beau jour, je décide d'écrire à la femme de ce monsieur, la femme qu'il a quittée lui aussi, qui avait 3 enfants, dont un qui avait à peu près le même âge que ma fille, c'est-à-dire 1 an.
Daniel dépose l'enveloppe dans la boîte aux lettres d'Éléonore, l'épouse de l'écrivain, dont il a trouvé l'adresse sans difficulté. En quelques lignes, il explique être le compagnon de la femme avec qui son mari est parti. Parce qu'elle a probablement envie de récupérer son mari et que lui veut retrouver sa femme, il lui propose de s'associer. Parfois, on se raconte des histoires comme si on avait le moindre pouvoir sur le cœur des autres. Quelques jours plus tard, dans la nuit du 25 au 26 décembre 1999, tout seul chez lui et désespéré, comme dans un mauvais film américain, Daniel se saoule au whisky. Soudain, il entend un bruit monumental. Par la fenêtre, il voit, stupéfait, des voitures éventrées et des arbres renversés. Il pense qu'il a trop picolé, que la peine et l'alcool le font délirer. En réalité, la capitale est frappée par la tempête Lothar qui va dévaster la région et tuer 8 personnes. Le lendemain matin, il est réveillé par le téléphone. Il croit encore halluciner. Au bout du fil, c'est le célèbre écrivain. Il veut voir Daniel lui parler. Celui-ci commence par hurler. Il ne veut pas lui parler, non, il veut le tuer. Les envies de meurtre sont rarement rationnelles, mais il n'est pas certain que ce soit le meilleur moyen de récupérer l'être aimé. Quoi qu'il en soit, sans que l'on comprenne bien pourquoi, Daniel finit par accepter de retrouver le romancier qu'il déteste dans un café du 18e arrondissement.
Je le vois arriver, il me fixe à travers la baie vitrée comme ça, il me fixe et il avance. Il a une démarche un peu chaloupée, hasardeuse, les yeux écarquillés, très étrange, quoi. Il s'assoit sans un mot. Je crois qu'il me regarde fixement. Il ne me dit rien pour commencer. Et là, en le voyant, je me dis un truc immédiatement. Ce mec-là, c'est pas possible qu'il soit le beau-père de ma fille. C'est la première chose qui me vient. Et là, je me souviens lui avoir lâché cette phrase. Vous ne respirerez jamais le même air que ma fille. Et je lui répète, vous ne respirerez jamais le même air que ma fille. Et là, il me tient tête immédiatement, en me disant, je respirerai le même air que votre fille, car j'aime Laetitia éperdument, et je vais faire ma vie avec elle. Et donc là, je me souviens avoir attrapé la table du Vepler, et essayé de calculer la courbe possible qu'elle pouvait faire si je l'envoyais en l'air et qu'elle retombe à plat sur son crâne pour lui fracasser la tête. Je ne l'ai pas fait.
S'il ne lui a pas défoncé le crâne, Daniel ne renonce pas pour autant à la vaine et étrange mission qu'il s'est fixée. Reconquérir une femme qui, par ailleurs, n'a jamais manifesté son envie de lui revenir. Sur sa moto, au milieu de la ville saccagée, il pense aussi à la femme de l'écrivain. Dans quel état émotionnel se trouve-t-elle ? Qu'a-t-elle pensé de sa lettre ? Et surtout, va-t-elle lui faire signe ? C'est la semaine suivante qu'il reçoit le coup de téléphone. C'est elle, Éléonore. Sa voix est douce, posée. Il décide de se rencontrer le soir même dans un café à Montmartre. Éléonore arrive après Daniel, s'assied sur la banquette qui lui fait face. Elle est calme, triste et très belle.
Je vois une femme très élégante, posée, certainement très en colère, mais qui garde ça de façon très élégante. Mais il y a de la vraie tristesse dans ses yeux. Et on parle. Et franchement, on s'entend très bien. En tout cas, le résultat, c'est que nous parlons. On n'arrête pas de parler. On se retrouve dans ce café, on parle. On va au restaurant, on parle. Le restaurant ferme, on continue à parler dehors, on parle. Et on a parlé des heures. Et la vérité, c'est quoi ? C'est qu'on était deux êtres à poil, complètement à poil.
Les jours d'après, Éléonore et Daniel ne cessent d'échanger au téléphone, fomentant des plans pour récupérer leurs ex. Mais Daniel est à bout, exténué. Sans avertir Éléonore, il rejoint un ami dans un chalet perdu dans la montagne près de Chamonix. Sur place, il lui passe un coup de fil et découvre alors avec stupéfaction qu'elle est également en vacances à la montagne, elle se trouve même à 15 km de là. Alors, sans réfléchir, parce que parfois on ne sait pas trop ce qui nous prend, il fonce la retrouver. Devant le chalet où elle l'attend, Éléonore dérape sur la glace et atterrit dans ses bras. Elle lui avouera par la suite qu'elle n'avait pas cherché à s'arrêter. Ils vont, une fois encore, parler jusqu'au petit matin. Après le dîner, ils se rendent dans une boîte de nuit miteuse et déserte où ils dansent, seuls sur la piste, boivent, rigolent. Tout ça, sans ambiguïté. Pour l'un comme pour l'autre, l'objectif reste le même, reconquérir leur amour perdu. Enfin, c'est ce qu'ils croient. De retour à Paris, Éléonore et Daniel se voient presque tous les jours. Le soir, il se rend chez elle, dans son appartement du 17e arrondissement, où il boit un verre et rencontre ses enfants. Quelquefois, l'écrivain passe en coup de vent embrasser sa famille, tandis que Daniel, planqué dans le square en bas de l'immeuble, attend qu'il s'en aille pour les rejoindre.
À ce moment-là, je crois que je reçois un coup de fil de Laetitia qui me dit qu'elle va partir en vacances pendant 15 jours avec lui et ma fille. Et ça, c'est le coup de trop. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas pensable. Et donc, je deviens fou. Et je me rappelle que je pleurais et que je me suis dit, mais de toute façon, la seule solution, c'est que ce mec meure. À l'époque, j'avais récupéré, pour attacher mon scooter, une chaîne d'encre de bateau. Très lourde, avec des maillons énormes. Et je me suis dit, il garde toujours son scooter à tel endroit, il emprunte systématiquement toujours le même chemin, il fait sombre, il n'y a jamais personne ici, jamais. J'attends qu'il range son casque et je le tue. C'était très clair, je savais très bien ce que j'en courais. Je me suis dit que, de toute façon, ma fille, c'était sûrement pas plus mal qu'elle soit... élevé que par sa mère, qui était en pleine réussite, et que moi, je fasse 20 ou 25 ans de prison, j'étais prêt à l'accepter. Et donc, je me suis posté près de cet arbre, donc à la sortie de chez Léonore, et j'ai attendu qu'il se gare. J'avais préparé ma chaîne, qui était posée au sol, et que je tenais de la main droite, comme ça, moi j'avais gardé mon casque quand même. Et je me suis dit, comme il empruntait systématiquement toujours le même chemin, dès qu'il passe derrière l'arbre, je lui balance ça sur la tête, avec un élan par derrière. Et là, je reçois un SMS d'Éléonore qui me dit « Peux-tu prendre du lait pour le petit ? Ça va être l'heure du biberon. » Et je me souviens du visage du petit, le petit d'Éléonore et le petit du mec que j'allais tuer, du visage de ce gamin, qui était super mignon, super gentil. Ça s'est joué à 2 secondes peut-être, pas plus. S'il ne m'avait pas envoyé le SMS, sincèrement, je suis quasiment certain que j'aurais balancé la chaîne sur la tête. Et j'ai pleuré. Et je suis allé chercher du lait pour le petit.
Après l'épisode du meurtre abandonné au profit d'une expédition lait en poudre, quelque chose se met à glisser, l'air de rien. Un soir, sur son canapé, celui-là même où il était assis quand il regardait Laetitia à la télévision, Daniel se surprend à caresser le bras d'Éléonore. Bientôt, sans tout à fait comprendre ce qui lui arrive, il l'embrasse. Démarre alors, sur la pointe des pieds, dans le secret le plus absolu, une histoire d'amour entre les deux cœurs brisés. À leur grande surprise, Daniel et Éléonore sont heureux. Ils s'écrivent des lettres ardentes qu'ils glissent dans la boîte aux lettres de l'autre. Ces deux-là se comprennent parfaitement, parlent encore des nuits entières, rient beaucoup. Ils se moquent de l'écrivain qui, selon eux, est mythomane et raconte n'importe quoi dans les médias. Mais les secrets finissent souvent par être découverts.
Je me souviens avoir reçu un appel de Laetitia, hurlant, en disant que j'avais détruit sa vie en faisant ça. Que Machin Bidule, l'écrivain célèbre, n'arrivait pas à se relever et qu'il était en larmes par terre. Que je lavais ma vengeance. Que on ne se rendait pas compte de ce qu'on avait fait. Qu'on était des pervers fous. Ils n'ont pas supporté, ils ont eu l'impression d'être pris à leur propre jeu, ou pris dans un piège. Je pense qu'ils ont eu l'impression d'être manipulés, d'être en fait finalement les dindons de la farce, mais il n'en était rien. Je veux dire, on vivait, nous, une belle histoire avec Eleonore. On se marrait, on partait ensemble, on déconnait, on était bien. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont autant mal pris les choses. Je ne sais pas.
En réalité, c'est surtout l'écrivain qui se met dans tous ces états. Il appelle son ex tous les jours, plusieurs fois par jour même. Il passe de plus en plus souvent dans l'appartement familial, fait des scènes. Daniel se dit alors que cet homme est bien trop présent dans la vie d'Éléonore pour quelqu'un qui veut en sortir. Mais au fond, il s'en fout. Il aime peut-être deux femmes à la fois, cela ne l'empêche pas de vivre son histoire, un cadeau de l'existence. Durant 2 ans et demi, Éléonore et Daniel vont s'aimer en dépit de leur entourage. Ensemble, ils remontent la pente, retrouvent foi en l'existence, soignent leurs plaies. Mais ils ne peuvent s'empêcher de s'inquiéter pour l'équilibre de leurs enfants respectifs. Ils sont conscients que tout cela est bizarre. Ils finissent par rompre en douceur, sans jamais se quitter tout à fait. Plus tard, ils sont toujours amis. Éléonore conserve un carton rempli de lettres que lui a écrites Daniel. Il y a 2 ans, elle s'est remariée avec son premier amour, un garçon rencontré à l'adolescence. Le couple habite à quelques centaines de mètres de chez Daniel. Aujourd'hui, alors que leur appartement est en travaux, il les loge pour les dépanner. Lors d'une pause dans notre entretien, Daniel téléphone à Éléonore, qui se souvient de tout. Le café où ils se sont donné rendez-vous pour la première fois sur la butte Montmartre, la boîte de nuit glauque et vide à la montagne, la fois où son fils de 2 ans a lancé à Daniel « Toi, tu dégages ». Si elle se rappelle bien, il lui aurait même craché dessus. Un épisode que Daniel a préféré oublier. De leur côté, Laetitia et l'écrivain ont vécu 17 ans ensemble. Ils ont eu 2 filles.
Quand Laetitia est tombée enceinte de cet écrivain, évidemment, ça a été un choc. Mais la perspective de recevoir un enfant ne peut être qu'heureuse, quelles que soient les circonstances. Donc, j'aime les enfants, d'où qu'ils viennent, et même venant de lui. Donc, je me suis réjoui de ça. C'est surtout que je me suis dit que finalement, ça débouchait sur quelque chose de réel, de concret, de beau, en l'occurrence l'arrivée d'un enfant.
Daniel se rend même à la maternité pour féliciter les parents. Auparavant, il achète un roman de l'écrivain, trafique la couverture, sur laquelle il inscrit le nom de la petite fille qui vient de naître.
Ça m'a fait mal au cul d'aller acheter un de ses bouquins. J'ai évidé le livre, je l'ai rempli de pages blanches pour qu'ils écrivent la belle histoire de leur fille. Et je l'ai apporté à la maternité. Le chagrin s'est probablement éteint le jour où j'ai compris qu'on avait réussi en grande partie à protéger notre fille et à faire en sorte que ce soit une jeune fille aujourd'hui équilibrée. Mais aussi peut-être le jour où je me suis rendu compte que cette histoire d'amour qui m'avait rendu si triste s'était transformée en véritable histoire d'amitié. J'ai 54 ans, elle en a 53. Ça fait presque 40 ans qu'on se connaît. Notre lien est indéfectible. Partout en vacances maintenant ensemble avec Laetitia donc, et ma nouvelle compagne, donc tout se passe bien.
Désormais, les rapports de Daniel et l'écrivain sont cordiaux. La dernière fois qu'il a vu le romancier, c'était pour les 18 ans de la fille que celui-ci a eu avec Laetitia, celle-là même à qui il avait offert, pour sa naissance, un livre rempli de pages blanches.
Je m'entends très bien, c'est les 2 filles qu'ils ont eu ensemble, sont 2 filles absolument géniales. La grande fille vient souvent à la maison, elle passe prendre l'apéro, elle passe dîner, voilà. Laetitia, ma fille et moi, prévoit de dîner tous les 3 la semaine prochaine pour fêter 25 ans de séparation, de rupture, mais finalement en bonne intelligence, quoi.
4e épisode de L'amour sonne toujours deux fois avec Daniel, Éléonore, Laetitia et l'écrivain. Un reportage de Monica Sabolo réalisé par Anne-Laure Chanel. Merci à Maurice, à Valentin Rémy, l'attaché de production des Pieds sur Terre et à Luce Mourant. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient rencontrer l'autrice, Monica Sabolo, en vrai, je signale que ce soir, jeudi 13 mars à 19h30, il y a une rencontre autour de son œuvre à la Maison de la Poésie à Paris. J'adore.